Dans sa somme théologique, plus précisément dans la partie concernant la vie de Jésus, saint Thomas d'Aquin se pose quatre questions à propos de la venue des rois mages à Bethléem. La naissance du Christ devait-elle leur être manifestée par une étoile? La révélation de la naissance du Christ s'est-elle faite dans l'ordre voulu? L'étoile qui est apparue aux mages était-elle une des étoiles du ciel? Et enfin, est-ce avec raison que les mages sont venus adorer et vénérer le Christ? Tout d'abord, ce sont des anges qui ont conduit les bergers à la crèche. Pourquoi est-ce que le bon Dieu n'a pas choisi des anges, mais une étoile, pour amener les mages à son Fils? Eh bien, pour s'adapter à eux. Si les bergers ont été avertis par des anges, c'est parce que les Juifs étaient habitués à recevoir les messages divins par l'entremise de ces messagers célestes, ainsi qu'on le voit dans tout l'Ancien Testament. Mais les mages qui venaient du paganisme et qui étaient des savants et des astronomes habitués à scruter le ciel furent avertis par une étoile. Et c'était à leur égard le moyen le plus adapté pour leur attirer l'attention. Les mages connaissaient aussi la prophétie de Balaam qui s'était répandue dans tout le Proche-Orient. Balaam n'était pas un personnage recommandable, c'était un devin qui invoquait les démons. Un roi païen de ces régions, Balak, lui avait demandé de maudire les Hébreux qui s'apprêtaient à traverser son territoire pour entrer en Terre Sainte, après toutes les années passées dans le désert. Mais il ne put les maudire, et Dieu l'obligea à prophétiser, entre autres, la venue de son Fils. Une étoile sortira de Jacob. Ce qui voulait dire que le Messie qui devait illuminer toute la terre naîtrait de la descendance de Jacob. En voyant cette étoile anormale, les mages qui étaient des justes comprirent qu'elle annonçait la naissance de celui qui viendrait illuminer toute la terre. L'étoile frappait de son éclat leur regard corporel, dit saint Léon le Grand, mais un rayon plus éclatant de vérité pénétra leur cœur de la clarté de la foi. Lorsqu'ils se mirent en route, les mages n'étaient déjà plus des païens, ils étaient chrétiens. Saint Thomas se demande ensuite pourquoi la naissance de Jésus a été révélée d'abord aux bergers qui étaient juifs et ensuite seulement aux mages qui étaient païens. La réponse est qu'il convenait que la nativité du Messie soit révélée en premier lieu au peuple qui avait été chargé de préparer la venue de Jésus, pour être ensuite annoncée à la masse des païens préfigurés par les mages. On peut ajouter que les bergers qui gardaient leurs troupeaux étaient l'image des pasteurs de l'Église, tandis que les mages étaient l'image des peuples que ces mêmes pasteurs étaient chargés d'évangéliser. Mais une troisième question se pose à nous. L'étoile qui est apparue aux mages était-elle une étoile du ciel? La réponse donnée par saint Jean Chrysostome est qu'il ne pouvait s'agir d'une étoile du ciel. Une étoile n'est pas visible le jour et la nuit, comme le fut celle des mages, dit-il. Elle n'est pas tantôt visible et tantôt invisible. Ayant disparu lorsque les mages sont entrés dans Jérusalem, pour reparaître lorsqu'ils en sortirent. Une étoile ne se déplace pas quand on marche pour s'arrêter lorsqu'on s'arrête. Et enfin, une étoile ne vient pas se mettre au-dessus d'une maison, comme l'étoile des mages au-dessus de la maison de Bethléem, où se trouvaient Jésus, Marie et Joseph. Il s'agissait donc d'une étoile miraculeuse. Comme le dit saint Augustin, ce n'était pas l'une des étoiles qui, depuis le début de la création, garde sous la loi du Créateur l'ordre de leur course. Mais c'était un nouvel astre, saluant la nouveauté d'un enfantement par une vierge. Saint Thomas se pose enfin une dernière question. Est-ce que ce fut à propos que les mages vinrent adorer et vénérer le Christ Jésus? Saint Matthieu, nous venons de l'entendre, nous dit qu'étant entrés dans la maison, les mages virent l'enfant avec sa mère et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Toute la tradition de l'Église a vu dans ces présents la foi des mages dans la royauté, la divinité et l'humanité de notre Seigneur. L'or est en effet le symbole des rois, l'encens celui de l'adoration que l'on adresse qu'à Dieu, et la myrrhe, avec laquelle on embaumait les corps des défunts, annonçait à l'avance que cet enfant mourrait un jour pour le salut de tous et donc qu'il avait la nature humaine. Mais saint Thomas ne parle de ces présents des mages que dans la réponse à une objection. L'essentiel de son article, qui est le couronnement de la question sur l'épiphanie, consiste à expliquer que les mages représentent les princes des nations croyant au Christ. En eux apparut comme dans un présage, dit-il, la foi et la dévotion des nations qui, des pays lointains, viennent au Christ. Et c'est dans ce but que le Saint-Esprit les conduit à Bethléem. La Providence a donc voulu que dès la naissance de notre Seigneur, sa royauté sur les nations fût manifestée. Cette fête de l'Épiphanie est la fête de la royauté du Christ, une fête du Christ roi. La liturgie de ce jour le proclame d'ailleurs. L'introïte de cette messe, par exemple. Voici venir le Seigneur, le dominateur, il tient dans sa main le pouvoir, la puissance et l'empire. Ou encore l'épître que nous venons de lire et où le prophète Isaïe annonce les rois des nations qui se soumettront au roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est important de remarquer en même temps que c'est l'annonce de cette royauté de notre Seigneur qui déclencha la première persécution contre l'Église en germe qu'était la Sainte Famille. Tant qu'il n'y avait que quelques bergers pour adorer l'enfant Jésus dans une grotte, et que la Sainte Famille vivait paisiblement, inconnue de tous, dans une petite bourgade de Palestine, cela ne posait aucun problème au monde. Mais du jour où des mages venus d'Orient arrivèrent à la capitale avec leur équipage et demandèrent où était le roi qui venait de naître, tout Jérusalem fut troublé. Le pouvoir politique prit peur. Le pouvoir religieux ne se mit pas en peine de défendre celui qu'ils crucifieront un jour. Et Hérode ordonna le massacre de tous les enfants de la région, persuadé par là qu'il ferait périr celui qu'il considérait comme un rival. Les mages avaient apporté en effet une précision essentielle. Notre Seigneur n'est pas seulement vrai Dieu et vrai homme, il est roi. Et sa royauté est une conséquence de son humanité et de sa divinité. Plus exactement, la nature humaine de notre Seigneur étant unie à la seconde personne de la Sainte Trinité, notre Seigneur est le seul parmi les hommes à pouvoir être appelé Dieu. Il est donc le roi de tous les hommes, même de ceux qui ne le reconnaissent pas, même des non-catholiques. Et c'est ce qu'on appelle sa royauté par nature. Mais il est aussi venu pour obtenir une royauté par conquête. Nous étions esclaves du démon, il venait nous délivrer par sa mort sur la croix, il ajouterait par là un nouveau titre, un nouveau droit à régner sur nous. Hérode est l'image des princes de cette terre qui ont oublié que le pouvoir leur a été donné par Dieu, non pas pour flatter leur désir de puissance ou de domination, mais pour que l'organisation de la cité temporelle facilite aux hommes leur soumission au roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, et leur permette ainsi d'aller au ciel. Quant aux prêtres et aux pharisiens, leur orgueil leur avait fait détourner le sens des prophéties. Ils les avaient comprises comme l'annonce d'un Messie temporel qui leur ferait dominer toutes les nations. Et en fait, c'est le Christ seul qui a reçu les nations en héritage. Ce n'est pas un peuple plus qu'un autre. L'annonce des Mages venait donc détruire les plans des pharisiens. Et on les retrouvera le vendredi saint, unis à Pilate, pour mettre Jésus à mort. Les Juifs n'ont pas voulu voir qu'après avoir eu l'honneur de préparer la venue du Sauveur, ils devaient rentrer avec les autres peuples dans l'Église, le nouvel Israël, pour en constituer d'ailleurs la partie la plus vigoureuse, puisqu'au dire de saint Paul, ils sont les branches naturelles de l'arbre, tandis que nous ne sommes que des greffons. À partir de la venue des Mages à Bethléem, le monde se divisera en deux camps opposés et irréductibles. Ceux qui acceptent de se soumettre au doux joug du Christ roi, et ceux qui ne veulent pas de son règne et qui le combattent. Et il y aura une lutte à mort qui durera jusqu'à la fin du monde. De fait, par la prédication des apôtres et le sacrifice de milliers de martyrs, notre Seigneur a fini par régner au cœur du monde, dans l'Europe chrétienne, pendant plus de 1000 ans. Règne de vérité et de vie, de sainteté et de grâce, de justice, d'amour et de paix, et qui étendra son influence jusqu'au-delà des mers, dans les nouvelles terres découvertes. Bien sûr, ces sociétés chrétiennes eurent leurs vices, dit le cardinal Pie, mais si le cœur humain restait blessé par le péché originel, comme il le sera jusqu'à la fin du monde, la loi du Christ imprégnait toute la société et sauvait les âmes. Et tout ce qui reste aujourd'hui encore de vraie civilisation, eh bien c'est à ces époques de règne du Christ que nous le devons. Aujourd'hui, le royaume de notre Seigneur est dévasté, et même les représentants de son Église ont pactisé avec les ennemis de notre Seigneur. Petit troupeau que nous sommes, eh bien demandons en ce début d'année la grâce de demeurer les fidèles serviteurs de notre roi Jésus. Fidèles serviteurs qui continuent à veiller en attendant que leur maître vienne rétablir son règne. À l'exemple des apôtres des derniers temps annoncés par saint Louis-Marie Grignon de Montfort, portons l'or de la charité dans notre cœur, l'encens de l'oraison dans notre esprit et la myrrhe de la mortification dans notre corps. Ce sont les garanties de notre persévérance. Demandons cette grâce par la médiation de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.